Quatrième jour, sexte. Uatso va chercher des truffes et trouve un arrivage de minorites. Ceux-ci s'entretiennent longuement avec Guillaume et Hubertin, et l'on apprend des choses tristes sur Jean 22.
Après ces considérations, mon maître décida de ne plus rien faire. J'ai déjà dit qu'il avait parfois de ces moments de totale absence d'activité, comme si le cycle incessant des astres s'était arrêté et lui avec. Ainsi en alla-t-il ce matin-là. Il s'allongea sur sa paillasse, les yeux grands ouverts dans le vide, et les mains croisées sur la poitrine, remuant à peine les lèvres comme s'il récitait une prière, mais de façon irrégulière et sans dévotion. Je pensais qu'il pensait, et je résolus de respecter sa méditation. Je revins dans la cour et vis que le soleil s'était affaibli. De belle et limpide qu'elle était, la matinée, alors que le jour s'apprêtait à consumer sa première moitié, devenait peu à peu humide et brumeuse. De gros nuages arrivaient du septentrion et envahissaient le haut du plateau, le recouvrant d'un brouillard léger. On aurait dit de la brume, et peut-être de la brume montait-elle aussitôt du sol, mais à cette hauteur il s'avérait malaisé de distinguer les nappes brumeuses qui venaient du bas de celles qui descendaient du haut. On commençait à distinguer avec peine la masse des bâtiments les plus lointains. Je vis Séverin qui rassemblait les porchers et plusieurs de leurs animaux dans l'allégresse. Il me dit qu'ils allaient le long des pentes du mont et dans la vallée chercher des truffes. Je ne connaissais pas encore ce fruit raffiné du sous-bois qui poussait dans cette péninsule et paraissait typique des terres bénédictines, aussi bien à Norcia, noir, que dans ces terres-là, plus blanc et plus parfumé. Séverin m'expliqua de quoi il retournait et combien la truffe est délectable, préparée des plus diverses façons. Et il me dit qu'elle était très difficile à trouver, parce qu'elle se cachait sous la terre, plus secrète qu'un champignon, et que les seuls animaux capables de la dénicher, guidés par leur flair, étaient les cochons. Sauf que, à peine la sentait-il, qu'il voulait la dévorer, et il fallait aussitôt les éloigner et intervenir pour la déterrer. Je sus plus tard que de nombreux gentilshommes ne dédaignaient pas de s'adonner à cette chasse, en suivant les cochons comme de très nobles limiers, et suivis à leur tour par des serviteurs munis de houx. Je me souviens même que bien plus tard encore, un seigneur de mes contrées, sachant que je connaissais l'Italie, me demanda comment il se faisait qu'il avait vu là-bas ses pères mener paître des cochons. Et moi je ris en comprenant qu'ils allaient au contraire à la recherche des truffes. Mais comme je lui dis que ces seigneurs souhaitaient vivement découvrir le tartufo, comme on nomme la truffe là-bas, sous la terre pour la manger ensuite, il comprit que l'objet de leur recherche gourmande était der Teufel, autrement dit, le diable. Et il se signa avec dévotion en me regardant tout ahuri. Puis l'équivoque se dissipa et l'un et l'autre nous en rîmes de bon cœur. Telle était la magie des langues humaines, que par un humain accord, elles signifient souvent, avec des sons identiques, des choses différentes. Intrigué par les préparatifs de Séverin, je décidai de le suivre. C'est qu'aussi je compris qu'il s'adonnait à cette recherche pour oublier les tristes vicissitudes qui nous accablaient tous. Et je pensais qu'en l'aidant, lui, à oublier ses pensées, j'aurais peut-être sinon oublié, du moins tenu en bride les miennes. Je ne cache pas non plus, puisque j'ai décidé d'écrire toujours et seulement la vérité, qu'en secret me séduisait l'idée que, une fois descendu dans la vallée, je pourrais peut-être entrevoir quelqu'un que je ne veux pas nommer. Mais à moi-même et quasi à haute voix, je soutenais en revanche que, comme ce jour-là on attendait l'arrivée des délégations, je pourrais peut-être en aviser une. Au fur et à mesure qu'on descendait les tournants du mont, l'air s'éclaircissait. Non pas que le soleil revint, car tout là-haut le ciel s'alourdissait de nuages, mais on distinguait nettement les choses, car le brouillard restait au-dessus de nos têtes. Et même une fois que nous fûmes de beaucoup descendus, je me retournai pour regarder le faîte du mont et ne vis plus rien. À partir de la mi-côte, le haut de la colline, le plateau, l'édifice, tout disparaissait dans les nues. Le matin de notre arrivée, quand déjà nous étions dans les monts, à certains tournants, il était encore possible d'apercevoir, à pas plus de 10 000 et peut-être moins, la mer. Notre voyage avait été riche de surprises, parce que d'un coup on se trouvait comme sur une terrasse montagneuse qui donnait à pic sur des golfes splendides, et peu après on pénétrait dans des gorges profondes, où des montagnes s'élevaient entre les montagnes, et l'une bouchait à l'autre la vue de la côte lointaine, tandis que le soleil pénétrait à grand-peine au fond des vallées. Jamais, comme en cette partie d'Italie, je n'avais vu si étroite et soudaine des interpénétrations de mers et monts, de littoraux et de paysages alpins, et au vent qui soufflait dans les gorges, on pouvait percevoir la lutte alternée des baumes marins et des courants rupestres glacés. Ce matin-là, au contraire, tout était gris, et presque d'une blancheur lactescente, et les horizons étaient escamotés même lorsque les gorges s'ouvraient vers les côtes lointaines. Mais je m'attarde en des souvenirs de peu d'intérêt pour les événements qui nous tourmentent, mon patient lecteur. Aussi ne parlerai-je pas de notre aventureuse recherche des « Der Teufel », je parlerai plutôt de la légation des frères mineurs, que j'avisai le premier, courant aussitôt vers le monastère pour avertir Guillaume.